Interview. 1 Interview.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, politique, campagne présidentielle même et la suite, les législatives qui s'enchaînent avec le groupe local d'appui à la France Insoumise, ici pour le DIWA. En votre présence, Éric Sicard, Stéphane Sachet, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous allons donc détailler un petit peu ce programme France Insoumise et puis tout de suite commencer par peut-être situer pour les gens qui ne savent pas encore de quoi on parle, même si ça fait un moment dans la plupart des médias qu'on s'intéresse à ce mouvement qui aujourd'hui porte et soutient la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
C'est ça.
Allez, présentation, France Insoumise, c'est quoi, Stéphane?
Alors la France Insoumise, c'est certains pourraient penser que c'est un parti politique, mais en fait, c'est pas un parti politique. C'est issu du rassemblement Front de Gauche qu'on avait eu en 2012. C'est par la suite de l'échec du mouvement Front de Gauche des 5 dernières années que, à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, on va dire, il a voulu inciter les gens à prendre conscience que les partis politiques n'étaient plus essentiels dans la vie politique en général. Donc c'est devenu un mouvement citoyen. Soutenu par quelques groupes politiques, mais surtout soutenu et valorisé par les citoyens eux-mêmes, par les gens eux-mêmes. Peu importe leur carte, peu importe leur courant, peu importe d'où ils sont issus, mais c'est un rassemblement, en fait, autour d'un projet commun, d'un programme qui a été fait collectivement depuis un an, qui a été validé par un collectif de 280 000 personnes aujourd'hui, et qui a pour but, justement, de changer les règles du jeu, changer les règles politiques, et emmener ensemble un projet de transition écologique, un projet de transition sociale, un projet de transition politique aussi, et d'une 6e République, comme on dit. Et c'est lié justement à ce mouvement de la 6e République. Donc c'est vraiment un mouvement citoyen, moi j'appelle ça un mouvement citoyen et réellement citoyen.
Alors tout ça à grand coup de technologie récente, hein, ça s'est passé sur Internet principalement. Comment est-ce qu'on peut créer un programme à 280 000 personnes et le valider, Éric?
Et bien le programme, il s'est créé justement avec la proposition de la participation de ceux qui s'intéressaient à l'élaboration de ce programme. Et donc il s'est fait avec des amendements de textes proposés par des citoyens sur les différents thèmes du programme. Et ensuite avec des commissions qui se réunissaient pour valider les propositions faites et cette validation proposée à chaque fois à l'ensemble des gens qui y ont participé. Donc tout ça qui a amené justement au programme L'Avenir en Commun qui donc a été terminé dans sa forme actuelle en octobre 2016.
Ces thèmes ont été choisis par qui? Par donc une équipe politique au départ, proposés aux citoyens, et les citoyens ont amendé dans ces thèmes?
Les thèmes ont été organisés autour de groupes thématiques. C'est-à-dire que depuis, moi j'ai commencé en février 2016 à m'intéresser et à être inscrit sur le site participatif. Et les thèmes étaient proposés. Mais c'est les thèmes que tout le monde connaît, c'est les thèmes de transition écologique. C'était vraiment les thèmes généraux qu'on retrouve dans toute campagne politique, dans tous les thèmes qui sont quotidiens en fait. Donc à partir de là, on a été amené à proposer, à faire des contributions par le net, via le net. Tout s'est fait par Internet, hein, de toute façon, au départ. Mmh. Donc, les contributions ont généré des sous-thèmes, et ainsi de suite, de façon à générer plusieurs groupes thématiques. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans l'avenir en commun a été divisé par des ateliers thématiques, avec des gens tirés au sort. Il y a eu des gens tirés au sort parmi les 200 000 personnes, à chaque fois, pour participer à chaque atelier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est une évolution différente de ce qu'on pouvait attendre dans une campagne. Parce que d'habitude, on arrive, on nous propose des idées et puis vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Mais bon, ça s'arrête là. Après, proposer des thèmes et permettre à des gens d'y amener ce qu'on veut, en fait. Parce qu'il y a eu plus de 3500 ou 3700 contributions écrites qui ont été après validées. On recevait des mails de validation, il fallait qu'on valide les thèmes, valider les articles, tout a été validé en ligne par ceux qui ont voulu participer, justement.
Éric.
Oui, et donc depuis que le programme L'Avenir en Commun a été terminé, ce travail continue avec l'élaboration de feuillets plus complets sur les différents thèmes proposés dans le programme. L'objectif, c'est une quarantaine de feuillets beaucoup plus précis, donc qui vont plus loin sur les propositions du programme.
Avec notamment des questions de chiffrage, ce que Jean-Luc Mélenchon commence à sortir maintenant dans les médias, c'est-à-dire un programme chiffré, comment est-ce qu'on propose tel ou tel thème, mais comment est-ce qu'on fait réellement en sorte qu'il soit appliqué ?
Oui, tout à fait, hein, puisque comment dire, l'objectif, c'est justement d'avoir une vraie proposition d'alternative de gouvernement, et donc évidemment passer à un aspect économique. Économique et chiffré de l'ensemble du programme. Et donc ça a été fait il y a maintenant 3 semaines environ sur une journée complète où il y a eu 5 heures d'intervention justement pour expliquer en direct justement les différents aspects du programme et leur chiffrage précis.
On va s'intéresser à ce premier point très facile pour commencer, la 6e République. Voilà, il semble que seulement 2 candidats aujourd'hui au présidentiel proposent ça. Celle de Jean-Luc Mélenchon est portée par ce mouvement France Insoumise. C'est quoi la 6e République ?
La 6e République, eh ben, c'est une nouvelle constitution. Puisqu'actuellement, on est sous le système de la 5e République qui existe depuis 1958 et dont on voit bien, comment dire, les défauts et le...
Proposé par De Gaulle à l'époque, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, comment dire, ce qui est particulier dans la 5e République, c'est l'élection présidentielle au suffrage universel et avec un rôle du président de la République qui est complètement dominant dans la vie politique. Et un système d'élection législative majoritaire, donc où il n'y a pas de proportionnel. Et donc on voit bien les écueils qu'il y a aujourd'hui, notamment comment dire le fait que tous les citoyens en face d'un scrutin comme celui qui s'annonce se retrouvent devant une problématique d'arriver à réfléchir son choix, non pas en fonction de ses idées, mais en fonction de calculs très compliqués, de savoir qui va pouvoir passer.
Qui sera le moins pire.
Et qui voilà. Sera le moins pire, et de déterminer son vote sur des calculs en partie liés au sondage ou, comment dire, sur les possibilités d'un deuxième tour. Donc ça, c'est, voilà, comment dire, ça montre bien les écueils du système actuel.
Ça, c'est la principale, effectivement, difficulté ou problème qu'on voit arriver sur... ce système de la 5e République avec du coup une abstention très très forte, évidemment des votes blancs qui ne sont pas comptabilisés
ouais.
Voilà, et une monarchie présidentielle, une plutocratie, puisque par ailleurs eh bien, ce président est très souvent quand même plié, soumis à un certain nombre de lobbies ou à des logiques de parti dont on pourrait se poser la question si France Insoumise arrivera à en être comment dit-on, affranchi totalement.
Être affranchi des lobbies, c'est une chose, mais je pense que tout est lié. Si le pouvoir se concentre sur une personne, il est normal de voir arriver des lobbies autour de cette personne, justement, pour influencer la politique qui va être menée. Ça paraît totalement logique. C'est bien le paradoxe entre la démocratie telle qu'on pourrait l'imaginer et le fait de la monarchie présidentielle telle qu'elle est, où le pouvoir se concentre autour d'un groupe uniquement. Donc aujourd'hui, pour garder le pouvoir, la 5e République, on en arrive à ce que disait Eric, c'est... on arrive à voter pour le moins pire. C'est-à-dire que nos convictions personnelles passent après l'intérêt de dire lui, il est peut-être moins pire quand même. Et aujourd'hui, on connaît la menace que, entre guillemets, qu'on nous dit du Front National, qui sert un peu d'épouvantail à tout le monde et qui permet de justifier cette concentration de pouvoir de la 5e.
Sur 2 partis seulement.
Sur 2 partis seulement. Et c'est un peu dommage parce que ça nous enlève toute possibilité d'évoluer et de pouvoir imaginer un avenir autre que celui qui nous est actuellement soi-disant proposé comme une évidence, parce qu'il faut faire ça pour éviter le pire. Je pense que la 6e République est une bonne réponse justement à remettre les règles à plat, réfléchir à comment on peut changer justement la définition du pouvoir tel qu'il pourrait être et non pas tel qu'il est aujourd'hui, et supprimer cette monarchie présidentielle qui étouffe tout débat politique à un moment donné. De toute façon, par rapport à la 5e République, à un moment donné, le pouvoir continuera de se concentrer sur lui-même pour pouvoir se maintenir. C'est le but.
Je voulais rajouter par rapport au lobby. Bien sûr, là, on est bien lucide de ce qui se passe actuellement. Les lobbies, comment dire, ça peut être aussi l'influence de différents acteurs de la société. Donc aussi de milieux associatifs, aussi d'ONG, aussi de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, donc, et qui font aussi partie d'un système démocratique. même si ce ne sont pas des représentants élus. Donc ça, c'est aussi important et nécessaire, comme ça a pu se faire, par exemple, au moment du Grenelle de l'environnement, qu'en plus des élus, des assemblées, on fasse participer à des réflexions collectives des gens qui sont issus de la société civile ou qui sont représentatifs aussi d'une part de la société.
Les lobbies, hein, c'est évidemment des oreilles qui sont tendues, des autorisations en tout cas de s'exprimer ouvertes à certaines personnes et pas forcément à d'autres. On pourrait effectivement écouter d'autres gens. Est-ce qu'on pourrait détailler un petit peu les grands points de cette 6ème République? Premièrement, comment fait-on sauter cette monarchie présidentielle?
En fait, la démarche pour la 6ème République, c'est d'abord passe par une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a l'article 11 qui autorise le président qui sera élu d'engager le processus de 6ème République, de changer la Constitution. Oui. Donc il faut déjà un engagement citoyen
sur les deux élections.
Oui, c'est logique, sûr. Puisqu'on ne peut pas partir du principe qu'on est des démocrates pour une démocratie et imposer une fois au pouvoir de dire on va faire ce qu'on veut. Donc on est obligé de passer par les principes de la 5ème République, c'est-à-dire passer par l'actuelle Constitution pour pouvoir établir les règles de la prochaine et remettre tout à plat. Donc la première démarche, c'est de faire suivre son vote du 23 avril et du 7 mai par les législatives. Et à partir de là, s'enclenchera le processus de mise en place de la 6ème République et de la constituante, qui est l'élément principal de la 6ème République, qui passe par la désignation, l'élection et la désignation par tirage au sort de la nouvelle constituante qui sera amenée, indépendamment du pouvoir, à écrire cette nouvelle constitution. Par des contributions citoyennes.
Voilà, donc la première étape, c'est créer une assemblée constituante qui va écrire cette 6ème République, avant même de détailler qu'est-ce qu'elle sera.
Voilà.
Ah bah vas-y, alors comment on va faire, une fois qu'on sera tiré au sort, comme peuvent l'être les obligations juridiques, c'est ça hein. On va être
oui, c'est ça, comme les jurés d'assises, c'est exactement la même chose. C'est tiré au sort par rapport aux listes électorales, et ceux qui veulent participer...
Donc là, ce sera tous les citoyens, pas les 280 000 qui ont déjà écrit
le projet. Non, tous, oui, c'est ouvert à tout le monde.
Cette assemblée constituante, elle se fera, par le suffrage universel à nouveau, c'est-à-dire que les citoyens seront sollicités pour aller voter pour des personnes qui se présentent, mais aussi avec la possibilité de choisir le tirage au sort. Donc c'est le choix des citoyens, l'ensemble des Français qui aura une proportion plus ou moins importante de tirage au sort ou de gens élus à cette constituante.
Ouais. Ouais, parce que la grande nouveauté, c'est que parmi les bulletins de vote, il y aura un bulletin de vote tirage au sort. Donc tu vois, il y aura des candidats. Donc toi, si tu veux être candidat pour être à l'Assemblée, il y aura des gens qui pourront se proposer, ouvert à tous. Hein. C'est pas ouvert qu'aux élus politiques et qu'aux politiques. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde pourra proposer sa candidature pour en faire partie. Mais il y aura un bulletin de vote marqué tirage au sort. Et proportionnellement au nombre de bulletins qu'il y aura tirage au sort, le même nombre de gens seront tirés au sort justement sur les listes électorales. Sans obligation de participer. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation non plus. Donc si tu es tiré au sort, tu pourras dire « j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de participer à votre truc », tu auras le droit hein, aussi.
Voilà, on en tirera un autre.
On en tirera un autre. d'où c'est ça l'intérêt, c'est qu'il faut solliciter aussi les citoyens justement à aller vers cette démarche. Et ce n'est pas systématiquement des gens qui vont être d'accord avec nous. Ce n'est pas ouvert uniquement à des insoumis, ça n'a aucun sens sinon, ça serait plus logique. Il faut que ce soit ouvert à tous et c'est ça qui est pour moi une nouvelle façon de faire de la politique.
À partir du moment où on propose aux gens, où on leur permet en tout cas de s'exprimer, en général, tout le monde a bien envie d'y aller. Hein.
Bah hélas, non.
Ouais, on verra. On le voit. Pour l'instant, ça n'a pas été proposé. Mais enfin, ce n'est pas applicable.
C'est pas applicable, mais on a déjà eu quelques exemples. C'est pas la première fois qu'on a des gens qui parlent de 6ème République, qui parlent de démocratie participative. Oui. Et quand il y a des engagements qui sont faits et qu'on voit, par exemple, un exemple tout bête, nous, on est aujourd'hui 280 000 inscrits pour soutenir ce mouvement. Il y aura certainement plusieurs millions de personnes à voter pour ce mouvement. Très peu participent quand même.
Ouais, finalement.
Finalement. Oui. Donc l'intérêt qu'on
suscite...
On peut
espérer que vous doubliez le nombre de voix, oui.
Voilà, mais on peut espérer. Mais l'intérêt de susciter la chose ne veut pas dire que les gens vont participer. On l'a vu dans différents pays où les constituantes ont été balayées, comme en Islande, où la constituante, une fois établie, un an et demi après, était destituée et retournée aux oubliettes pour reprendre une... Voilà, les gens peuvent oublier aussi de garder cette démocratie et cette participation. Donc là, c'est tout l'inconnu justement de la chose. C'est est-ce que les gens vont se saisir de cette occasion pour y aller, quoi, pour s'exprimer et participer justement.
Le principal point de la France Insoumise, c'est de demander justement à tout le monde de participer. Ouais. Est-ce que vous ressentez une peur de certains citoyens à partir vers quelque chose comme ça? Parce que le changement peut faire peur. Est-ce que vous ressentez une animosité?
Alors, une peur, pas forcément. Des doutes, oui, évidemment. Puisque justement, en plus, c'est un projet qui est en train de se construire. Donc, c'est des propositions auxquelles les uns et les autres, on n'a pas forcément réfléchi jusque-là. Donc, je pense que voilà, on est dans une étape d'élaboration et que justement, c'est important de le mettre en avant pour que chacun puisse avoir sa propre réflexion autour de ça et voilà, et puisse s'en emparer. Après, je pense qu'il y a quand même, globalement, sur ce sujet-là, en France, peut-être pas un consensus, mais en tout cas, de plus en plus de gens qui remarquent que le système actuel de la Ve République ne fonctionne pas. Donc, il y a un besoin évident démocratique de changer ce système-là.
On suit finalement un mouvement là qui est citoyen globalisé sur qu'est-ce qui est en train de se passer ici dans cette Ve République. Est-ce qu'on pourrait citer d'autres points sur cette sixième, assez important en tout cas, qui seront proposés à la constituante notamment?
Le principe d'une constituante, c'est de ne pas imposer des choses dans la Constitution.
Bien sûr. Des orientations, on va dire.
Des orientations. Donc les orientations, on les retrouve justement dans le programme de l'Avenir en commun. Il y a des grands thèmes comme la transition écologique, la règle verte, ne pas prendre à la nature ce qu'elle n'est pas capable de pouvoir reconstituer. Il y a le droit à l'avortement qui doit être constitutionnalisé. Il y a plein d'éléments dans le programme qui vont être proposés à la constituante. C'est son rôle, c'est pour ça que si on a un président qui met en place ça, il fera aussi rôle de proposition. C'est le but. Mais ça n'interdit pas aux autres de venir aussi proposer. Donc c'est ouvert aussi à d'autres propositions. Et donc les grands thèmes de nous, c'est la transition écologique, l'avortement, le droit à mourir dans la dignité.
Il y a aussi le fait de revenir à un système proportionnel, ou en tout cas plus proportionnel, pour que justement une Assemblée nationale soit en tout cas beaucoup plus représentative des courants de la société et des courants politiques de la société. Il y a aussi la possibilité de la révocation des élus par,
motion de censure.
Oui, enfin par motion de censure, c'est dans la mesure où il y a un pourcentage suffisamment important de la population. Parce que c'est des élus, pas forcément nationaux, hein, des élus à tout niveau, dans la mesure où il y a un pourcentage suffisamment important de la population qui réclame la destitution d'un élu. Ce qui veut dire, dans ce cas-là, qu'il y a à nouveau une élection. Parce que, on ne va pas révoquer un élu simplement parce qu'on le demande par pétition ou des choses comme ça. Mais qui offre la possibilité de reconduire à des élections dans la mesure où un grand nombre d'électeurs et de citoyens considèrent que l'élu ne fait pas son travail et ne suit pas les engagements qu'il avait promis.
Sur la partie corruption de ces élus, c'est le grand thème. Hein, en ce moment, ça sort de partout, on en voit plein. Y a-t-il un verrou proposé dans cette 6ème République?
Je pense que
peut-on avoir une condamnation et continuer à être élu?
Non.
Voire même une suspension.
Je pense qu'il y a déjà les moyens légaux aujourd'hui.
Ouais, c'est ça qui est
de condamner la corruption. Donc, il n'y a pas forcément une nécessité de le réécrire parce que c'est déjà écrit. Alors après, il faut que la justice fasse son travail.
Ça veut dire redonner son pouvoir à la justice, ce qui n'est pas le cas depuis ces quelques dernières années. Un vrai pouvoir autonome.
Il faut garder l'indépendance de la justice. C'est hyper important. C'est la base même d'une démocratie d'avoir une justice indépendante. Sinon, autant donner le pouvoir et la justice au pouvoir. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les dires qu'on a dans cette campagne. Quoi. C'est un peu ce qu'on a l'impression de dire. On a rigolé souvent en entendant « et alors » au sujet des affaires politiques. « Et alors », c'est le terme qui revient souvent en ce moment par rapport à Fillon. « Et alors, j'ai fait des conneries, et alors ouais. ?» Tu vois, donc la justice passe après.
Oui,
et ça doit s'arrêter.
L'indépendance de la justice, c'est vraiment un des piliers de la démocratie et de ce qu'on appelle l'état de droit, où justement il y a une séparation entre le pouvoir exécutif et l'appareil judiciaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Donc ça aussi, ça sera redéfini dans la Constitution, reproposé pour que ce soit redéfini dans la Constitution. Mais comme je dis, hein, la Constitution, c'est à nous de la faire.
Quelques autres orientations?
Ouais, c'est la laïcité, réaffirmer la laïcité. C'est quelque chose qui est important, vu aujourd'hui les dérapages qu'on peut trouver dans notre société. C'est quand même quelque chose qui est important de redéfinir aussi.
Tiens, glissons sur ce débat rapidement. Très très rapidement. La laïcité, c'est quoi? Est-ce que c'est la possibilité d'avoir autant de signes ostentatoires partout, tout le temps, et qu'on n'en a rien à branler? parce que franchement, chacun fait bien comme il veut. Ou est-ce que c'est au contraire que tout le monde doit être clean et justement ne pas montrer son appartenance à quoi ou qu'est-ce ?
C'est une bonne question. Non, c'est compliqué de répondre dans sa globalité. Je pense que la première chose à voir, c'est que le signe ostentatoire ne peut pas être une représentation au sein des institutions de la République. Ça ne veut pas dire qu'on interdit les signes religieux en dehors de ça. Ça ne veut pas dire interdire le voile, ça ne veut pas dire interdire la croix ou la kippa ou quoi que ce soit. Ça veut dire que dans les institutions de la République, il est quand même préférable. Ça doit rester aussi quelque chose qui doit être à soi-même. La religion, c'est une confession à soi. On n'est pas obligé de l'étendre quand on fait partie d'un organisme public. Voilà. Mais à partir de là, dans la vie de tous les jours, je pense que la laïcité, oui, c'est le respect de ce qu'on est et de...
Tout à fait. Et c'est donc la séparation de l'espace public et de l'espace privé, ou bien sûr dans l'espace privé. Donc aussi dans la façon de s'habiller, de son droit à l'existence personnelle.
Oui, pas de discrimination à l'habit, quelle qu'il soit finalement.
Bah voilà, c'est ça. Ouais.
Non, pas de discrimination
sauf
à l'habit.
Sauf dans l'excès, dès lors où ça devient un prosélytisme, c'est autre chose. Ouais. Mais la laïcité, c'est complexe. Hein, quoi.
Les services d'État, ça englobe aussi les écoles, ça englobe tas de choses. Ouais. Et... Alors, que, je ne sais plus qui écrivait ça, mais il me semble que c'est un philosophe bien connu, juif d'ailleurs, qui disait que quand on a quand même atteint le niveau de ne pas considérer mieux ces personnes ou moins bien, on s'en fout qu'elles soient avec un voile ou avec une grosse croix qui pend. Je veux dire, c'est leur problème en fait. En quoi est-ce que ça choquerait le citoyen, quand bien même ce serait dans une institution publique ? Bien, ce sera donc à débattre dans la Constituante. Hein.
Ça sera à débattre dans la Constituante, mais après, voilà, on peut aussi être d'accord avec plein de choses et ne pas vouloir les voir inscrites dans la Constitution. C'est une question de respect aussi par rapport aux gens et aux confessions des gens. Les excès sont dangereux. C'est pas le fait d'être croyant ou quoi que ce soit, ou de montrer sa croix ou ça qui passe. C'est l'excès de ce que tu peux être derrière qui fait la dangerosité de la religion, pas la religion en elle-même. Moi, j'ai pas de souci de ce côté-là, en fait. C'est con. On sait pas qui.
Allez, un autre thème, tiens.
Alors, un autre thème, qu'est-ce que je pourrais. La sûreté, la sécurité de l'État, par exemple. C'est des choses qui peuvent être réorganisées. Le rôle de la police, par exemple.
Ouais,
le retour à une police républicaine.
Merci de l'aborder, parce que je me demandais alors, et tout ce qui s'est passé ces derniers temps.
Redéfinir
on
n'a
pas
les
parlé
rôles
du troisième
chacun.
Pouvoir, hein, c'est celui qui tape pour l'instant.
Voilà. Donc le rôle de la police et de la sûreté, il doit redevenir un rôle républicain. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire de la répression. C'est pas son rôle de la police, en fait. Normalement, elle est là pour protéger et garantir la sécurité des gens avant tout. Donc il faut redéfinir aussi ses règles. Et c'est pareil, c'est une complexité, c'est très complexe, surtout dans les conditions actuelles les situations qu'on connaît par rapport au terrorisme, et puis la xénophobie, tout ce qu'on peut trouver en ce moment qui amène à douter de la police, alors qu'on ne devrait pas avoir à douter de la police. Il faut donc il faut redéfinir son rôle aussi dans un contexte républicain, d'où l'importance de redéfinir tout ça, redéfinir les règles de tout ça.
Et l'Europe ?
Oui, alors là, on peut sortir du débat sur la 6e République,
ouais.
Qui est évidemment un point fort du programme. Enfin, c'est tout à fait important de parler de l'Europe, mais il me semble qu'avant ça, c'est important de redéfinir les axes importants de la politique qui veut être engagée. Parler de la transition écologique et parler aussi d'un autre modèle économique. Puisque, ensuite, le rapport à l'Europe peut se définir aussi par rapport justement à nos propositions.
Ah bah,
pas comme quelque chose en soi.
Oui, oui.
L'axe fort du programme de l'avenir en commun, c'est la transition écologique. Je pense que aujourd'hui, on sait très bien dans quelle évolution on va. On a des signaux d'alarme très forts sur les dangers de l'évolution climatique, sur la pollution, sur la santé publique,
ouais,
enfin tout ce qui en découle, et le système dans lequel on est actuellement. Même si, comme on a pu le suivre au moment de la COP21 à Paris en fin d'année de 2015, oui, il y a une prise de conscience, il y a des intentions, mais sans engagement précis pour l'instant.
Ou alors à très long terme.
Voilà, aujourd'hui c'est vraiment important de réfléchir, non seulement de réfléchir, mais de passer à un autre système à ce niveau-là. Alors dans la transition écologique, il y a plusieurs choses. Il y a la transition énergétique, donc aussi de passer à l'énergie renouvelable. Donc dans le programme, on se fixe à être 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Bon, 2050, ça nous laisse quand même presque 30 ans pour y arriver.
Plus de 30 ans pour y arriver.
Ouais. Mais parce que, comment dire, il faut être logique. Mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut engager dès maintenant. Quelque chose qui est en partie engagé. Parce que, bien heureusement, les capacités techniques qu'on a aujourd'hui nous permettent d'avoir des solutions par rapport à ça. Éolien, solaire et encore toute une recherche qui continue à se faire dans ce domaine-là.
Voire qui n'a pas été trop faite même.
Vraiment laissée de côté. Alors en France notamment, mais ce n'est pas qu'un problème français, il y a le nucléaire. Et ça veut dire aussi s'engager dans la sortie du nucléaire. Donc bien entendu, en commençant par en premier fermer les centrales qui ont une durée de vie déjà bien entamée. Et surtout pas de se remettre en fonction et allonger la durée de vie de centrales dont on sait qu'elles y a des coûts absolument faramineux pour chercher à continuer à exploiter ces centrales. Donc c'est évidemment aujourd'hui très important de s'engager dans cette voie, de cette conversion vers des énergies renouvelables. C'est aussi toute une réflexion du territoire et savoir comment, suivant nos régions, quel type de projet on peut élaborer.
Tout ça avec, en face, évidemment, la création d'emplois localisés, localisables, sur du long terme. C'est aussi un grand pan de cette transition énergétique, c'est qu'on a du boulot, là, concrètement, qu'on ne fait pas à l'heure actuelle.
Ah ben, évidemment.
Il y a des milliers d'emplois qui sont prêts.
Des centaines de milliers d'emplois.
Oui, il faut beaucoup plus de monde pour démanteler une centrale et retraiter les déchets par la suite, dans le domaine de la recherche et tout ça, qu'actuellement pour entretenir une centrale nucléaire.
Oui, déjà ça, mais je veux dire, donc, même pour poser base, tous les capteurs, développer un nouveau système.
Et par la suite, ça décuple le nombre de besoins en emploi de créer justement ce développement durable. C'est un engagement essentiel de la transition écologique. C'est lié aussi à la transition économique qu'on doit faire. C'est-à-dire que c'est lié à l'emploi, c'est lié à la recherche, c'est lié à tant de choses qu'il y a à faire. On entend souvent le débat de si on ferme les centrales nucléaires, on va perdre des emplois. Non, c'est l'inverse. C'est de fermer des centrales nucléaires, maintient les emplois de ces centrales. Les sites seront serviront justement à mettre en place les usines de création des nouvelles énergies. Donc les sites resteront en place. C'est un faux débat de dire qu'on va perdre des emplois avec le nucléaire, alors qu'en fait, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire fermer le nucléaire, ça veut dire maintenir les emplois, créer d'autres emplois par la suite pour développer justement toutes les énergies qu'on a besoin. Et c'est des emplois qui sont vraiment localisés. C'est-à-dire que c'est ces emplois qui ne vont pas être... on ne va pas les faire construire quoi que ce soit à l'étranger, alors qu'on en a besoin sur place. Quoi. Des éoliennes, hydroliennes et tout ça, on peut le faire. Ça fait aussi partie du projet de transition industrielle qu'on a besoin en France.
Tout à fait. Et puis le nombre d'emplois sur une centrale, ça couvre une zone tellement grande en électricité, alors qu'on va faire plein de petites centralettes partout.
Puis ça développe plein d'économies, parce que pour construire aussi bien des éoliennes que des panneaux solaires, ou même on part photovoltaïque, mais il y a tellement d'autres sources maintenant qu'on connaît justement au niveau de la technologie qu'on a à développer et à faire dans le domaine de la recherche, que ça va faire des emplois partout et au niveau local. Chaque région aura son domaine de prédilection pour créer sa propre énergie de la façon dont ils ont besoin, liée à l'environnement qui leur est propre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience. C'est que ce n'est pas une perte d'emploi que de fermer les centrales nucléaires. Au contraire.
Tout à fait. Puis en parallèle, il y a la maîtrise de nos dépenses énergétiques avec tout le gâchis qu'il y a à plein de niveaux. Et par rapport à ça, la rénovation et l'isolation de l'habitat et je dirais de tout ce qui est le bâti, hein, parce que c'est non seulement l'habitat, mais aussi les entreprises, les bâtiments publics. On a un très bon exemple ici à Radio d'Ivoire. Là, il y a un énorme effort à faire. Et évidemment, énormément d'emplois et d'activités qui peuvent être créées à ce niveau-là. Alors, il y a eu dans le dernier gouvernement un plan de transition écologique, justement, en incitant à cette rénovation de l'habitat. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, il faut passer à quelque chose de beaucoup plus important.
D'imposer peut-être même.
D'inciter, parce que imposer, comment dire, de toute façon, à différents points de vue, une politique, elle ne peut pas être imposée d'un niveau central. Il faut aussi qu'elle soit, qu'il y ait des relais à plein de niveaux de la société. Imposer, ça ne marchera jamais. Ça peut marcher que dans la mesure où il y a suffisamment d'acteurs à différents niveaux qui s'inscrivent dans cette démarche. Alors après, les acteurs au niveau des entreprises, à partir du moment où ça crée de l'activité, et en plus, je pense pas qu'il y ait quiconque aujourd'hui qui pense que ce soit de mauvais choix de rénover l'habitat et de consommer moins. Donc il me semble qu'à ce niveau-là, c'est un consensus complet qu'on peut obtenir. Alors bien sûr, ça veut dire des moyens très importants pour y arriver. Et donc dans le programme le chiffrage du programme de l'avenir en commun, on arrive à un budget de 100 milliards d'euros justement pour engager cette transition écologique. Parce que évidemment, c'est l'État qui est l'acteur le mieux placé pour engager justement les fonds nécessaires à cette transition.
Et sachant aussi que toute cette transition énergétique se fait sur la base d'un retour à un pôle public de l'énergie. C'est-à-dire qu'on reprend la main. C'est-à-dire que c'est nous, Français, c'est nous, le peuple, c'est nous, l'ensemble, qui reprenons la main sur les entreprises qui, elles, justement, freinent les développements, freinent les engagements sur la transition qui, comme tu disais, était engagée, mais entre guillemets, on va dire. Donc le fait de refaire un pôle public entraîne obligatoirement un investissement public sur les énergies renouvelables. C'est le point important aussi, c'est de remettre ça au giron commun, voilà, le bien commun.
Tout à fait, d'ailleurs, justement, on en vient à ce principe du bien commun, à reprendre collectivement la maîtrise de ce qui est le bien commun, l'énergie, la production d'énergie et la gestion de l'énergie fait évidemment partie d'un bien commun, comme l'air, comme l'eau, comme l'eau, la qualité de la terre, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important, et c'est bien pour ça que il y a une nécessité de sortir du système de la concurrence dans lequel on est actuellement, qui fait que les décisions ne sont pas prises en fonction du bien commun ou en fonction des perspectives qu'on voudrait avoir du choix de notre mode de société, mais qui sont faites uniquement en fonction des profits. Et ça, c'est évidemment un système qui pervertit la possibilité justement de maîtriser des choix.
Donc il y a une grande renationalisation d'un certain nombre de courants. L'eau par exemple, ou l'énergie, sont deux grands sujets. Il y a je sais pas combien de 10 ou 15, 20 entreprises qui se partagent ça sur ces deux trucs-là sur l'ensemble de la France. C'est plus des étrangers aussi, compagnies qui viennent d'autres pays. C'est un chantier monstrueux.
Tout à fait. Alors après, c'est pas nécessairement une renationalisation complète. On peut trouver toutes sortes de systèmes. Je veux dire, il peut y avoir des entreprises privées qui gèrent certains aspects dans la mesure où les contrats faits avec la collectivité publique sont suffisamment clairs et définis pour que l'entreprise qui participe fasse son travail, et des comptes à rendre sur les objectifs à atteindre.
Oui, quand on parle de pôle public, ça ne veut pas dire qu'on va nationaliser tout et que c'est l'État qui va décider de toutes les entreprises et que tout le monde va être fonctionnaire. Ça veut dire que ça va être le pôle public, ça veut dire l'orientation que va prendre la démarche. C'est pas tout le monde revient fonctionnaire et c'est l'État qui décide tout seul dans son petit coin de qui fabrique quoi, comment et tout ça. Non, c'est justement donner un sens et une direction à la production, remettre les moyens de production en ordre, pour justement aboutir à une transition réelle des choses. C'est juste donner le sens à prendre. Voilà. C'est vraiment différent que le fait de nationaliser tout. Parce qu'il y a différents pôles publics. Il y a le pôle public de l'énergie, il y a le pôle public bancaire, il y a le pôle public... il y a des choses... C'est vraiment reprendre l'ensemble des choses en main de façon à donner un sens réel vers lequel on veut aller.
Oui, et à maîtriser, et donc à maîtriser les choix et la politique qu'on veut mener.
En dehors du giron économique tel qu'on le connaît actuellement, quoi.
Oui, parce que d'habitude, le président a élu un ministre, le ministre se charge de son pôle, et puis voilà.
Voilà.
Et ce sera avec, évidemment pas de la même manière, avec une 6e République. L'avenir en commun, c'est ce programme que l'on explore ici sur l'antenne de RDOA avec la France Insoumise, avec vous Eric, Stéphane. Après cette transition énergétique, il y avait un deuxième point très très important, Eric, tu disais.
Oui, alors le deuxième point, comment dire, c'est de changer de modèle économique. Quand je dis de changer de modèle économique, on est allé là depuis, disons, une trentaine d'années, de plus en plus, vers le système du libre-échange total.
Débridé même.
Débridé, complètement débridé, même si heureusement il y a encore comment dire, un certain nombre de réglementations qui empêchent qu'il soit complètement débridé. Là on assiste à une absurdité complète de la délocalisation de la production, des problèmes de fermeture d'entreprise et de perte d'emploi, mais aussi donc d'un système où les marchandises circulent sur la planète sans arrêt, de façon complètement anarchique et démultipliée.
Sont rachetées 10 fois.
Voilà, exactement. Et ça, c'est comment dire un système qui est complètement absurde et néfaste sur un point de vue écologique. Ça, c'est une évidence, puisque comment dire, on se retrouve avec des logiques de transport de marchandises. Alors, je dirais qu'en premier lieu, c'est sur le plan agroalimentaire que c'est le plus absurde et qu'on peut se retrouver justement parce que des productions locales finissent par être plus chères pour le consommateur que des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, que des produits qui ont été commencé à être cultivés dans une région pour repartir dans une usine de fabrication à 10 000 km de là, et d'inciter aussi des pays, notamment les pays émergents comme les pays africains, à ce que leur système agricole soit entièrement tourné vers l'exportation et non pas, comment dire, sur leur autosuffisance alimentaire. Donc là, on a un système qui a besoin évidemment d'être complètement transformé. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va strictement arrêter tout échange commercial. Hein, c'est absolument pas l'objectif. Mais il faut arriver à revenir à un système d'échange en fonction de nos besoins et non pas en fonction de simplement un système qui va générer des profits, qui fait que justement, enfin, pour reprendre sur l'agroalimentaire, inciter justement des pays entiers à se lancer dans une production pour que finalement les cours mondiaux de cette production s'effondrent et qu'une économie entière soit complètement dévastée par ces changements de cours boursiers. Donc là, voilà, il faut arriver à retrouver, comment dire, une économie locale et, disons, à différents échelons, local, régional, national, et évidemment aussi d'échanges entre les pays, mais justement en relocalisant notre production autant que possible. Donc également au niveau industriel.
Oui, parce qu'il y a un côté pervers à notre système économique actuel, c'est la mise en concurrence des populations, des peuples et des pays eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, à force de chercher toujours à payer moins cher les choses, on a fini par être en concurrence avec tout le monde et à s'opposer à tout le monde. C'est les causes de pas mal de conflits un peu partout. C'est un peu. Enfin, c'est quand même.
De l'appauvrissement de certaines zones.
Voilà, de certaines zones. Et puis maintenant, c'est à nous d'être appauvri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est appauvrie dans plusieurs pays. On a vu les conséquences qu'il y a eu en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie. On le voit un peu partout. Les économies, à force de se concentrer, pareil, on va chercher là où c'est le moins cher. Et du coup, on vide les États, chaque État, de ressources, de leurs ressources propres, qui est le travail, l'emploi, leur économie, en fait. On les vide de leur substrat, en fait, au fur et à mesure
avec
des
de l'argent
années.
Qui tourne localement.
Voilà, il y a plus d'argent qui tourne dans les bulles extérieures que de l'argent qui tourne réellement dans le pays, dans chaque pays. Et là, on est en train d'arriver à une absurdité, une incohérence totale dans un système qui tient plus la route de toute façon. On le sent. De toute façon, je pense que tout le monde en est conscient. Après, comment on l'interprète et comment on peut le définir, c'est différent. Mais je pense que tout le monde ressent bien qu'il y a quelque chose qui va plus à force de vouloir aller dans l'absolu de ce système actuel, quoi. Donc, il faut revenir à quelque chose de plus sensé, de plus local, réindustrialiser les choses. On sait le faire en plus. On sait faire. Donc, c'est pas impossible à changer. Voilà.
Ces deux points-là pour du coup maintenant parler de cette fameuse Europe qui quand même si c'est pas totalement débridé comme tu le dis Eric et c'est bien gentil, débride de plus en plus, on peut quand même le dire. La réglementation européenne est de plus en plus relâchée sur tout un tas de domaines qui touchent à la fois à l'écologie pure, sans parler même qu'on puisse en faire une transition, et qui touchent au système économique. Jean-Luc Mélenchon, par sa personne, le programme France Insoumise, le Front de Gauche à l'époque ou le Parti de Gauche sont pointés comme étant des partis anti-européens. ou en tout cas prêt à changer le paradigme européen pour faire une autre proposition. On attend tous l'Europe sociale plutôt que l'Europe économique, mais quoi sur cette Europe ?
En premier lieu, dans le programme L'Avenir en Commun, c'est pas du tout une option anti-européenne, bien au contraire. Par contre, comment dire, ce qu'on met en avant, c'est qu'il faut absolument sortir des traités actuels qui ont été définis en Europe. Traité qui, en plus, en France, en 2005, a été quand même refusé par les citoyens lors du référendum sur l'Europe, mais qui a finalement abouti par un traité qui a été fait sans consultation des citoyens. Bon, ça, c'était une petite parenthèse sur les soi-disant, enfin, comment dire, les écueils d'une démocratie qui a montré que c'en était pas une. Et donc, voilà, je veux dire... On ne peut pas aller justement vers cette transition écologique et cette transition économique et productive sans sortir des traités européens actuels. Ce qui veut dire que demain, le gouvernement élu, donc avec le programme de la France Insoumise, va aller, au niveau de l'Europe, renégocier les traités actuels.
Sinon, voilà. Ça fera un Frexit.
Oui, alors après, on peut en parler dans un deuxième temps. Mais notamment pour demander à ce qu'il y ait réellement une harmonisation sociale et fiscale à l'intérieur de l'Europe. Pour l'instant, non seulement ça n'existe pas, mais c'est même interdit par les traités. Ce qui fait que, justement, on a ce système de concurrence à l'intérieur de l'Europe et qui fait que les législations à l'intérieur des pays et les droits du travail et les différences de salaire font qu'il y a une concurrence à l'intérieur des pays européens. Et d'ailleurs, les délocalisations actuelles se font principalement à l'intérieur de l'Europe.
C'est tout le paradoxe, c'est que justement l'Europe qui était faite justement pour unir les peuples et unir une économie et faire ensemble, aujourd'hui se mange entre elles. On est en train de manger chaque pays les uns après les autres. Aujourd'hui, on va vers les pays de l'Est parce que c'est 4 fois moins cher et on va fabriquer tout ce qu'on pourrait faire avant ici dans les pays de l'Est et ainsi de suite. Donc c'est incohérent aussi, ça part aussi d'un système qui est basé uniquement sur les profits.
La France a-t-elle les moyens de sortir de l'Europe ?
Oui, oui, oui.
Alors, sans se friter avec tout le monde à côté, sans faire
avant,
peur.
Avant de savoir si la France a les moyens de sortir de l'Europe, on peut poser la question aussi de savoir si la France a les moyens de négocier en Europe les traités actuels.
Ah ouais, c'est déjà la première étape. Ouais.
Oui, c'est quand même la deuxième puissance européenne, la cinquième puissance mondiale. Donc, comment dire, la France, je veux dire, ne va pas imposer aux autres ses points de vue, mais je veux dire, a les moyens... De négocier fortement en Europe. En plus, comment dire, imaginez la sortie de la France de l'Europe, l'Europe sans la France, comment elle continuera à exister, quoi. Bon, puisque, comment dire, là, dans cette construction européenne, c'est quand même l'Allemagne et la France qui ont été le structurant dans la construction européenne. Donc, la sortie de la France, bon, ce serait pas forcément un démantèlement complet de l'Europe, mais je veux dire, voilà, il y aurait des implications sur le devenir européen très très fortes. Donc la France a un poids par rapport à ça, justement, sur sa capacité à renégocier.
Nous approchons tranquillement de la fin de cet entretien sur ce programme L'Avenir en Commun avec la France Insoumise. Avec vous, est-ce que on aurait comme ça pas abordé un thème qui est très très important, qu'il faudrait absolument faire maintenant?
Bah oui, je pense que c'est de parler du capitalisme financier.
Enfin.
Évidemment. Non, mais évidemment. Et je crois que, justement, un peu comme sur la transition écologique, il me semble qu'il y a une prise de conscience assez générale auprès de beaucoup de gens en France sur les dérives du système actuel dans lequel on est. Alors, comment dire, pour l'instant, on a l'impression que c'est comme ça, qu'on peut rien faire, on est obligé de le subir. Mais non, ça, je veux dire, on subit les choses que ce qu'on accepte de subir. Le système capitaliste, actuellement, la part financière, c'est-à-dire la part qui n'est plus rattachée à l'économie réelle, est devenue la part la plus importante. Et il y a, comment dire, de l'argent fait avec de l'argent et des profits de revente de capitaux. Enfin, tout un système financiarisé qui s'est complètement détaché de l'économie réelle. Et ce qui fait qu'il n'y a plus d'investissement dans l'économie réelle. Et comment dire, finalement, toute cette masse financière ne sert que à passer de main en main et sans...
Par des ordis.
Oui, voilà.
au dixième de seconde, plus rapide. Mais la conséquence de tout ça, c'est aussi que pour compenser cette accaparation de capitaux, c'est nous qui payons par nos impôts. C'est-à-dire que c'est l'argent public qui vient compenser tout ça. C'est pour ça qu'on parle aussi de coupes dans les budgets depuis des dizaines d'années. On coupe dans les budgets publics, dans l'argent public. À chaque fois, on coupe dans les enseignants, on coupe dans les hôpitaux, on coupe dans tout ça. C'est les conséquences du capitalisme, puisque les richesses étant accaparées par une poignée, pour compenser les manques, c'est l'argent public qui a besoin. Et comme la politique actuelle, c'est de faire des coupes dans les services publics et dans l'argent public, on arrive à la situation actuelle, c'est-à-dire manque d'enseignants, manque de médecins, manque d'infirmières, manque d'hôpitaux, fermeture d'hôpitaux. Le cas de l'hôpital de Die, depuis des années, est en suspens, et ça fait aussi partie des conséquences qu'on retrouve. Parce que
comme depuis quand un hôpital devrait être rentable?
Justement, ouais. C'est nous, on propose que tout ça, ce ne soit pas considéré comme des choses qui soient rentables. C'est un dû à la population, c'est à nous, quoi. C'est un droit, c'est un devoir de l'État de couvrir ce genre de choses. Il faut plus d'hôpitaux, il faut plus de médecins, il faut plus d'enseignants. Mais la part prise par le capital empêche à l'État, justement, de pouvoir investir dans ce genre de démarche. Nous proposons de remettre tout ça à plat, justement, aussi, de récupérer les capitaux. Ce qui est possible, hein. C'est pas impossible de récupérer les capitaux.
On arrête la Bourse de Paris.
Oui, non, alors, les cotations journalières, quoi. C'est pas interdit de... On peut pas baser une économie réelle sur des spéculations au quotidien. C'est impossible. Alors, surtout quand on parle du CAC 40, il faut savoir ce que c'est que le CAC 40, quoi. C'est quand même que les 40 plus grosses entreprises françaises. Ça n'a rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec des PME ou l'artisan du coin ou le commerçant.
Alors, bien évidemment, on va pas pouvoir sortir de ce système-là par un simple décret présidentiel. Et ça peut se faire que par étapes, mais en commençant par mettre une régulation sur ce système-là. Donc une taxation des transactions, ce qui est d'ailleurs, pas novateur. Ça fait très longtemps qu'on en parle.
Oui, oui. C'est même un économiste américain qui avait pensé à ça.
Tout à fait. C'est évident qu'on peut taxer les capitaux, c'est la base. Même avant de taxer les robots, comme certains voudraient le faire, on a la possibilité quand même de taxer avant tout le capital. C'est la base même du capitalisme.
Ouais, vas-y.
Oui, non, comme vous évoquiez l'hôpital, justement, parce que ça, c'est un point important du programme, qui est le choix d'une sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire revenir à une sécurité sociale qui prenne en charge l'ensemble des dépenses de santé et sortir du système dans lequel on est venu, des assurances complémentaires, de l'engrenage, et autres mutuelles. Bon, on appelle ça mutuelle. Bon, mutuelle, ça veut dire que c'est mutualisé. Ouais, maintenant, c'est des assurances. Enfin, ouais, je veux dire, même s'il reste quelques mutuelles, dans ce système d'assurance privée, et dans lequel on est en train de continuer à aller, même si, bon, il y a de ce côté-là une résistance assez forte en France, parce que justement, ça fait partie d'acquis importants qui ont été gagnés dans notre pays. Tout à fait. Pour moi, c'est un des exemples du mensonge qu'on peut avoir actuellement, de dire « Ah, mais la sécurité sociale intégrale, on n'a pas les moyens. » Oui, d'accord, mais alors les mutuelles et les complémentaires, c'est gratuit ? Non, bien sûr, je veux dire, il y a des moyens qui sont là, puisque, simplement, on fait cotiser de façon individuelle et privée à des gens, à tout le monde, en sachant qu'en plus, plus on est âgé, plus on paye cher, que donc les gens qui ont des petites retraites se trouvent carrément, ne peuvent pas se financer des mutuelles, ou que ça devient une part de budget absolument considérable. Donc ça, c'est évidemment, un système... il faut revenir à un système de solidarité collective par rapport à la santé, ce qui est en plus, logiquement une évidence générale. On a besoin d'être en bonne santé, on en a besoin par solidarité humaine, mais on en a besoin aussi pour avoir une société qui fonctionne.
Et une société coûte moins cher quand les gens sont en bonne santé que d'attendre que tout le monde soit malade. Ils doivent payer. Donc c'est plus facile pour un État de financer une sécurité sociale intégrale que d'attendre que tout le monde ait un cancer ou une maladie grave, parce que personne ne peut se soigner avant. C'est un peu absurde. Le fait de payer une mutuelle, c'est quand même absurde.
Un mot encore, Eric, tu voulais...
Oui, ce que je voulais dire, là, pour revenir à du local très pratique, c'est que donc il y a un groupe d'appui d'IO Insoumis qui existe à Die. On tient un stand tous les samedis sur le marché à Die, et une réunion ouverte à tous ceux que ça intéresse, pour venir débattre, discuter, réfléchir justement à l'ensemble de ces propositions. Donc cette réunion se tient après le marché de Die à 13h au café Andarta à Die.
Il y a même un site sur lequel on trouve un peu vos...
Non, c'est pas un site. Il y a une adresse mail, mais il n'y a pas de site sur Divan Insoumis.
Alors, c'est relayé sur le site de France Insoumise où on voit ce qui est fait sur les antennes un peu locales. Alors, c'est
ouais,
ça
c'est GLM 2017.
Très bien.
Voilà, où on peut trouver les informations de la campagne en général, plus les groupes d'appui et prendre contact avec nous directement par le lien. Sinon, si tu peux donner l'adresse aussi, mail. Si tu
oui,
veux.
Donc l'adresse mail, c'est diwa.insoumis@gmail.com.
Merci à tous les deux. Cette campagne est en deux étapes, hein, une présidentielle d'abord, puis une législative ensuite. Et ben,
c'est un peu là, ouais.
On peut espérer que le groupe France Insoumise repasse alors.
Ah oui,
bah, on reviendra avec plaisir.
Comme ça, on finira de détailler parce que c'est très long. Sinon, vous avez un bouquin à aller acheter, c'est l'avenir en commun. Et puis, un site,
3
on
euros.
A dit.
Et vous retrouvez sur le site de GLM 2017, vous arrivez au site, les 40 livrets thématiques qui sortent au fur et à mesure. Il y en a encore à sortir, mais il y en a déjà une bonne vingtaine, trentaine, je crois, maintenant, qui sont sortis. Et tous les thèmes sont abordés, détaillés. Et c'est important aussi que les gens s'y intéressent pour faire un choix. Voilà. Je pense que c'est ça l'essentiel, faire le bon choix.
Et je terminerai aussi par dire que ce temps de parole n'est pas compté au candidat Mélenchon, mais que si d'autres mouvements politiques locaux ont envie de s'exprimer à la radio, ben qu'ils viennent, nous n'irons pas les chercher.
Ouais, et même débattre.
Ah, pourquoi pas.
L'interview du jour.